question. L'exemple du sacrifice n'est pas un exemple de... C'est un exemple de d'Averroès pour justifier le contact et l'importation d'un savoir venu d'ailleurs. Averroès disait, il prend un exemple du rituel du mouton, il dit que quand on sacrifie le mouton, on ne se demande pas d'où vient le couteau, mais est-ce qu'il coupe bien. Autrement dit, c'est une image pour dire ce qui compte, c'est la validité de la connaissance et non pas son origine. Et il prend un exemple très spécifique pour justement indiquer cette importance de la validité du savoir. Bien sûr que la vérité peut être voilée, vous dites l'erreur, etc. Je dirais voilée plutôt que l'erreur, c'est pas qu'il dit que la raison se trompe. À un certain moment, vous m'avez bien dit que Platon était en moins bonne part qu'Aristote pour ses philosophes et pour tout le médiéval. On a replacé Aristote au premier plan. Parce que Platon a un discours par le mythe qui voit la vérité. Et ce discours qui voit la vérité peut donner une maîtrise dès lors qu'on ne saisit pas une analogie comme une analogie. On ne saisit pas un rêve, pour reprendre votre expression, comme un rêve. Et le grand problème, c'est que on ne sait pas à quel moment une analogie commence à nous tromper. À quel moment une analogie est véritablement considérée comme la chose même, et on fait très vite le passage de l'analogie à la chose même, à l'essence, à la définition, et le moment où on se trompe est difficile à reconnaître. Reconnaître une analogie comme une analogie, on dit, mais bien sûr, une analogie, je ne vais pas la prendre pour la chose même. Oui, mais à un moment, je suis trompé par l'analogie, et je ne sais pas quand commence l'erreur. Et là, je citerai Wittgenstein, il dit, vous rêvez, vous avez parlé du rêve, vous rêvez qu'il pleut, et il pleut. Vous vous réveillez, et il pleut. Votre rêve reste un rêve. Votre rêve reste un rêve. Voilà. Coïncidence pétrifiante. Non, monsieur, je ne vous écoute pas, parce qu'on ne va pas faire un dialogue à deux, il y a plein de questions. Je continue à répondre à vos questions. La troisième, la zakat, c'est l'aumône légale, c'est un des cinq piliers de l'islam. Quoi en dire d'autre, sinon que c'est un des cinq piliers, la profession de foi, la prière, le ramadan, et la zakat. Je vous invite à lire tous les travaux qui ont été faits sur cette captation de la zakat comme impôt par Abou Bakr, qui est critiquable en tant que tel, parce que des gens l'ont critiqué, et ces gens ne sont pas considérés comme apostats. On les a déclarés apostats. Ils ont juste fait de la désobéissance civile parce qu'ils n'ont pas voulu qu'un principe religieux soit détourné vers un élément civil. L'ordre divin, je crois que j'en ai parlé, la loi est une orientation, la chaya, la loi divine. L'islam n'est pas le seul à parler de loi divine. Toutes les religions, même Léo Strauss le dit, même pour les Grecs, Zeus, c'est de la loi divine, lisez les lois de Platon. Les lois, dit Platon, sont divines. Donc, il faut essayer de comparer sans égaler et comparer pour saisir les spécificités. Je vous cite Al-Farabi. Il dit, le premier gouvernant, dans le livre de la religion, le premier gouvernant ne peut pas avoir tout légiféré. Il s'est inspiré de ce que vous appelez un ordre divin. Et je crois que là, vous lirez mon livre, vous vous confronterez avec d'autres choses que vous savez par ailleurs. L'idée que les textes sacrés soient une source de loi ne signifie pas qu'ils sont un contenu de loi. Je l'ai dit tout à l'heure, je le répète à la faveur de votre question. Al-Farabi, 10e siècle, il dit, quand vous faites une loi, il s'agit d'imiter, dit-il, le premier gouvernant. Mais imiter le premier gouvernant, ça veut dire quoi ? Imiter comme lui aurait fait s'il était parmi vous, non pas parce qu'il se serait trompé en tant que premier gouvernant, mais parce que les choses ont changé selon l'espace et le temps, selon le lieu et le temps, et donc maintenant S'il revenait parmi vous, il ferait comme vous feriez vous maintenant. Et c'est curieux parce qu'en histoire des sciences, on a la même chose. Galilée, quand il a été condamné, il a dit, mais si Aristote revenait parmi nous, compte tenu des observations que j'ai faites, il me dirait que j'ai raison. Parce que c'est les temps changent et les indications, les ordres, les impératifs, ce que vous voulez, les conseils, les directives, les réglementations changent. Et le divin ne signifie pas l'immutabilité. Les gens confondent l'immutabilité d'un être avec les mutations sociales.
Une autre question ?
Oui. Après deux haut-parleurs,
sinon ça va faire un larcène. Oui. Tout d'abord, je voudrais vous remercier pour le cours de philosophie que vous donnez là, parce que c'est rare quand on revient à l'époque médiévale. Merci beaucoup. Il y a deux points que j'aimerais soulever. Le premier point, Le premier point, c'est un passage très très important, je crois très intéressant, vous allez citer, c'est l'irruption de la philosophie deux siècles après. Donc le message du prophète. Donc ça, c'est un point important parce qu'il nous renvoie à l'actualité, finalement. Le deuxième point, je pense que vous le savez, et je crois que c'est important de le dire, c'est que cette philosophie ne s'est pas développée toute seule. C'est autour de la philosophie, il y avait toutes les sciences que malheureusement en Europe, on essaie d'oublier aussi. Il n'y a pas que la philosophie qu'on a oubliée, ce sont aussi les sciences. On parle souvent de Galilée et de Copernic, mais on oublie vraiment que Galilée et Copernic n'auraient pas existé, franchement, si les scientifiques arabes n'étaient pas là, et si les traductions et la science grecque aussi n'étaient pas là. Donc ça, c'est important. Mais dans ce point-là, juste pour ne pas être trop long, j'aimerais tout de même dire que les Arabes n'étaient pas simplement un groupe de traducteurs qui étaient dans une salle et puis recevaient les textes grecs et puis ils les traduisaient comme ça et puis ensuite ils les renvoyaient et puis ensuite c'est passé par la Sicile et par l'Andalousie. C'est qu'il y a fait effectivement tout un système de pensée, une logique, des travaux qui étaient faits donc, avec beaucoup de débats et ça je crois que c'est vraiment là où la philosophie a eu tout son rôle. Voilà.
Merci beaucoup. Merci. Oui. Deux questions et une remarque. La première, oui, je vais vous répondre par exemple d'un texte magnifique d'Al-Farabi dans le livre des lettres, qui s'appelle Al-Furuq. Dans le livre des lettres, il dit, et ça c'est la démarche philosophique, c'est toujours une démarche hypothétique. Si, alors. On n'est pas catégorique en philosophie, on est là pour protéger les questions. On laisse aux autres parler par précepte et résolution, comme dit Montaigne. Moi, je préfère dire « il me semble » et « si je considère ceci, voilà ce qui s'ensuit ». Et je me porte très bien à protéger les questions. Et donc, la question, c'était celle-ci. Vous avez parlé de la philosophie de siècle après. Il dit « il peut arriver, dit-il, qu'une philosophie soit là avant qu'une religion advienne. Et il peut arriver l'inverse, qu'une religion soit là avant que la philosophie advienne. » Déjà, il place les choses au niveau historique. Et c'est important pour ne pas faire cette ventriloquie transcendante dont je parlais tout à l'heure. Ce sont des avènements historiques. La religion est un événement historique, que ce soit pour le judaïsme, pour le christianisme, pour l'islam, dans cette petite Méditerranée si inflammable, parce que quand on voit ça du point de vue du shintoïsme, du taoïsme, du confucianisme, c'est important de relativiser, de voir la planète dans ses humanismes, dans ses systèmes de pensée, et le pluriel est toujours salvateur. Alors là, il voyait, il disait, une philosophie avant la religion, ben c'était les Grecs, au sens où ils ont eu d'abord, ils ont eu la religion bien sûr, mais pas la religion monothéiste. Et puis, la religion avant la philosophie, c'est précisément dans le monde musulman. Et dit-il, quand La philosophie et la religion ne sont pas du tout opposées, mais quand l'une arrive après l'autre, par exemple, quand la philosophie arrive après la religion, eh bien, quand vous avez récité pendant 2 siècles les plantes et les arbres se prosternent, et qu'arrive la philosophie qui vous dit, mais vous savez, il y a des concepts derrière ces images, vous allez dire, mais non, ce que je lis, c'est le concept même, dit Averroès. Et donc, le problème, c'est qu'après, vous avez une rivalité entre l'évaluation des discours, et cela est une production de contrariété, de contradiction historique qui n'a rien à voir ni avec la religion, ni avec la philosophie, mais dit-il, avec les adeptes de l'une et de l'autre. Vous avez raison pour votre seconde question de dire que la philosophie n'est pas seule, mais parce que nous avons tendance aujourd'hui à parler de philosophie déconnectée des savoirs scientifiques. Mais pour les médiévaux et jusqu'à Kant, chez Descartes, chez Pascal et chez ces médiévaux qui étaient médecins, astronomes, comme Avicenne, Averroès, il y avait véritable. La philosophie, c'était la connaissance des choses selon leur vérité. Et donc là, c'était la philosophie. Tout était philosophie, hormis les textes sacrés, parce que la philosophie est une science profane. Donc, dans la philosophie, ça implique l'agriculture, l'astronomie, la géométrie, l'arithmétique, la médecine, tout ça était appelé philosophie. Je crois que c'est important, mais aujourd'hui, c'est perdu ce lien que vous déplorez, et moi avec vous. Et je peux vous dire que moi qui suis maintenant depuis 7 ans au Comité consultatif national d'éthique, l'idée de travailler régulièrement chaque semaine avec des médecins, c'est extraordinaire d'avoir la possibilité de croiser de manière transversale les savoirs sociaux, économie, droit, humain, anthropologie, philosophie, socio-psycho et les différentes disciplines de la médecine. C'est véritablement ce croisement des savoirs dont on a besoin, surtout pour donner un peu de clarté sur notre complexité. Moi, je ne dis jamais qu'il faut simplifier la complexité. La complexité de notre monde est réelle. Mais si on pouvait être clair sur la complexité, on aurait beaucoup gagné. Et effectivement, par les débats, moi, je crois qu'effectivement, les débats sont importants. Vous savez, actuellement, on travaille beaucoup sur la... On a travaillé, nous, maintenant, tout est rendu aux instances du Parlement et de la présidence sur la fin de vie. On avait été saisi par le président de la République. On avait rendu notre avis en juillet 2013. Vous pouvez télécharger l'avis du CCN sur la fin de vie. L'Académie de médecine a rendu son avis. La conférence de citoyens que nous avons organisée, c'est-à-dire des formations de week-end de citoyens sur la base du volontariat, eh bien, cet avis a été rendu, et c'est tout ça qui va préparer la fameuse voix d'Alain Claës et de Jean Leonetti, qui va être normalement en discussion dès le mois prochain sur comment améliorer la loi Leonetti de 2005. Et ça, si vous voulez, c'est très important, c'est pas simplement d'être informé de la science, c'est d'être participatif de la science. Et la conférence des citoyens, l'Académie de médecine, nous, le comité d'éthique, produisent différents rapports, et je crois que c'est véritablement salvateur. Dans les pays anglo-saxons du Nord, je pense au Danemark particulièrement, les conférences de citoyens sont très très importantes. Ils appellent ça « involving in sciences », être impliqué dans les sciences, pas simplement de la recevoir sous la forme d'une information, mais d'y participer d'une certaine manière. Vous savez, par exemple, pour le sida, aujourd'hui, sans l'association de lutte contre le sida, il n'y aurait pas eu une orientation des budgets de recherche qui ont permis un véritable déclassement de la maladie, de la catégorie de maladie mortelle à maladie chronique. Et effectivement, la participation à la science est essentielle. Enfin, j'entends ça dans votre question.